perkeleen tontot!
Salut à tous, bienvenue sur Mike FM 106.1, bienvenue dans votre émission Metal Check Me Load, avec eh bien une émission de rentrée, puisque la semaine dernière nous étions en vacances. Donc aujourd'hui, j'avais prévu de vous passer plein de nouveautés, parce qu'il y a eu plein de choses, et puis finalement, changement de programme, l'émission va se décomposer en deux parties, parce que vous allez voir, j'ai une très bonne raison, c'est que je vais vous proposer en deuxième partie d'émission une interview des Tambours du Bronx, puisque vous le savez, hein, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, on avait reçu un des membres des Tambours et puis quelques invités assez fantastiques pour présenter le projet Weapons of Mass Percussion, un projet qui a bien évolué, qu'on a suivi pas mal ces derniers mois. Et les Tambours, ils ont rejoué au Silex, là où ils avaient joué la première fois ce nouveau show. Ils sont revenus donc jouer là au mois de février. Et comme Apolline, que vous connaissez bien sur Mike FM, Apolline Magnier, fait partie de cette aventure en tant qu'invitée, eh bien, elle se trouvait sur les lieux et elle a pu les interviewer de nouveau pour faire le point sur ce qui s'est passé en un an, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Et ça, on va y revenir tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'aurai à mes côtés Apolline qui sera dans les studios. On lui demandera aussi, on lui posera quelques questions sur cette aventure qu'elle vit aux côtés des Tambours. Mais avant de passer à l'interview, nous allons quand même s'intéresser à quelques nouveautés qui sont sorties ces dernières semaines. J'ai une nouveauté pour ce jour et puis sinon ce sera, voilà, on reviendra un petit peu en arrière. Il y a eu pas mal de choses, donc voilà, ça annonce de très belles émissions à venir. J'ai beaucoup de nouveautés qui sont laissées de côté mais qui vont arriver. Donc voilà, s'il y a des choses que vous avez vues et qui sont pas encore dans l'émission, ça va venir. Mais la sortie du jour, celle qui est incontournable ce vendredi 8 mars, c'est le nouvel album des Finlandais de Children of Bodom, un nouvel album qui s'intitule Exceed. Alors, Children of Bodom, un groupe qui nous vient de la ville de Espoo, qui a été fondé en 93 par le guitariste Alexi Laiho et le batteur Jaska Raitikainen. Au départ, ils s'appelaient Inhurst, et puis ils sont devenus Children of Bodom en 97, un nom qui fait référence à un lac, le lac Bodom, qui fut le théâtre du meurtre d'une bande d'adolescents dans les années 60. Pour ce qui est du style de Children of Bodom, on est sur du death metal mélodique aux accents assez heavy, power, black metal. Children of Bodom fait partie d'ailleurs des pionniers de la scène death metal mélodique. Et puis aussi, ce que je voulais signaler, c'est qu'à l'instar d'autres groupes très célèbres, comme par exemple Iron Maiden avec Eddie ou Megadeth avec Vic Rattlehead, eh bien Children of Bodom possède sa propre mascotte. Elle se prénomme Roy. Alors elle représente la grande faucheuse et elle apparaît sur chaque pochette des albums du groupe, dont la discographie compte depuis aujourd'hui 10 albums studio. Alors justement, puisqu'on parle d'album, c'est dès son premier, Something Wild, en 97, que le jeune combo va être repéré par le label Nuclear Blast, sur lequel il va sortir en 99 Headbreeder, qui est probablement son album le plus emblématique. Ensuite, il y aura Follow the Reaper, qui arrive en 2000, qui est dans la même lignée que ses deux prédécesseurs, et qui installe Children of Bodom parmi les formations incontournables de cette scène death mélodique. À cette époque-là, le groupe fait la couverture de tous les magazines spécialisés. C'est une véritable apogée pour lui. Et bah du coup, ça va lui donner envie d'évoluer un petit peu. Et ça va se faire à partir de l'album suivant qui s'appelle 8 Crew Death Roll, qui paraît en 2003, où on va aller vers un son plus trash, qui va d'ailleurs s'affirmer sur Are You Dead Yet en 2005, sur Blood Drunk en 2008, et puis sur Relentless, Reckless Forever en 2011. Trois albums qui ont pas mal divisé les fans, et qui n'ont pas fait l'unanimité. Donc, ce qui va se passer, c'est que le groupe va décider de revenir aux fondamentaux avec Hollow of Blood en 2013, et puis avec I Worship Chaos en 2015, et revenir aux fondamentaux pour notre plus grand plaisir finalement. Du coup, bonne nouvelle, hein, c'est que Hext, c'est un album qui est dans cette droite lignée. C'est un album, alors il n'y a rien de révolutionnaire dedans, mais c'est un pur concentré de Black and Death Metal mélodique, où la guitare est reine, avec un véritable déferlement de riffs, de solos aussi, qui sont dégainés par le virtuose Alexis Laio. Alors lui, sa vélocité, elle est absolument époustouflante. Et si c'est la guitare qui tient le premier rôle, le clavier de Jan Wierman n'est pas en reste. On peut même dire qu'il s'offre la place de second rôle en secondant tout simplement la guitare. Hext, c'est un album qui est mélodique, qui est puissant, qui est efficace, qui est accrocheur, qui possède vraiment tous les atouts pour trôner aux côtés des pièces maîtresses du combo. Et on peut d'ores et déjà parier que derrière le pourpre de son artwork se cachent quelques futurs classiques du répertoire de Children of Bodom. Et ben comme par exemple le titre Platitudes and Barren Words, qu'on va d'ailleurs écouter sans plus tarder. Voici Children of Bodom sur Back FM dans l'émission Check Me Load.
Yeah.
Children of Bodom sur Bike FM 106.1 dans l'émission Metal Check Me Loud. Vous venez d'écouter le titre Platitudes and Barren Words, extrait du nouvel album du groupe qui s'appelle Exceed et qui paraît aujourd'hui. Excellent album de Children of Bodom, je vous conseille. Donc voilà, rien de bien nouveau, si ce n'est qu'on est, on continue sur ce retour aux sources avec un son qui se rapproche de ses premières productions et c'est tant mieux. C'est très bien, ça passe tout seul, ça fait du bien. C'est donc une pochette violette cette fois-ci, puisque vous savez, à chaque nouvel album, Children of Bodom a un fond différent. On a eu du vert, on a eu du bleu, dernièrement on avait eu du jaune, et cette fois-ci il faudra chercher un album violet. C'est tout pour les sorties de ce jour. Alors il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres très très bonnes choses, mais on reviendra dessus la semaine prochaine. Et du coup, on va remonter maintenant à la semaine dernière, puisqu'il n'y avait pas d'émission, donc j'ai pas pu vous présenter les sorties du 1er mars. Et là aussi, hein, y a eu quelques pépites, pas que d'ailleurs, parce que là, l'album dont on va parler, c'est un bon album, mais c'est pas une pépite quand même. Mais bon, c'est un groupe assez important pour faire que son album soit incontournable. D'ailleurs, on va rester dans le monde du death metal mélodique, puisqu'on va s'intéresser à In Flames, qui a donc sorti il y a une semaine l'album Eye the Mask. Alors In Flames, groupe qui nous vient de Suède, de Göteborg, qui a été créé en 90 sous l'impulsion du guitariste Jesper Stromblad, qui d'ailleurs a quitté l'aventure en 2010. Donc on est, je vous disais, sur du death metal mélo, genre dont In Flames est, tout comme Children of Bodom, un des pionniers. Et oui, on a deux pionniers du death metal mélodique aujourd'hui dans Check Meload. Alors In Flames, eux, ont sorti leur premier album en 94, il s'appelait Lunar Strain, mais c'est dans les années 2000 que le combo va devenir incontournable de cette fameuse scène, avec des albums comme par exemple Clayman qui est sorti en 2000, Reroute to Remain en 2002, comme Clarity en 2006 par exemple. Et si le groupe se bâtit une solide réputation et obtient le respect de la communauté death, son besoin constant de voir sa musique évoluer, d'avoir envie de sortir des sentiers battus en expérimentant diverses sonorités, va finir par se retourner contre lui, puisque les fans vont peu accrocher à ses incursions dans des influences comme le metalcore, le metal alternatif par exemple, des influences qu'on retrouve sur Sons of Playground Fading en 2010, qu'on retrouve aussi sur Siren Charms en 2014, et puis sur Battles en 2016, qui malgré une production impeccable a énormément peiné à convaincre. Alors on lui reproche plein de choses, hein. On lui reproche d'être pas assez inspiré, on lui reproche justement ce trop-plein d'influences qui éloigne le groupe de ses premiers albums. Donc ça n'avait pas été évident pour Battles. Et pour être clair, je pense que c'est certainement pas Eye the Mask qui va réconcilier In Flames avec ses fans de la première heure, parce que si l'album débute effectivement sous les meilleurs auspices, en enchaînant une série de titres qui sont vraiment très puissants et qui nous ramènent justement à cette grande époque du groupe, au début des années 2000, l'album a ensuite tendance à s'essouffler, à tomber un peu dans la facilité. Donc voilà, on en revient à peu près au même reproche que les albums précédents. Mais malgré tout, faut quand même admettre que Eye the Mask contient quelques pépites qui vont ravir les nostalgiques et qui font de ce cru 2019 un album qui est loin d'être mauvais, mais qui est pas non plus un chef-d'œuvre. Alors, on espère évidemment mieux pour le prochain album de In Flames, qui va s'en tirer cette fois-ci avec la mention passable et les encouragements. En voici un extrait avec un des quelques très bons titres de l'album. Il s'agit du morceau I'm Above. C'est tout de suite, c'est sur Bike FM, voici In Flames. c'était In Flames à l'instant sur Bike FM dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre I'm Above, extrait du nouvel album du groupe paru la semaine dernière, un album qui s'intitule Eye the Mask. Donc un album quand même un cran au-dessus de Battles, hein, ça va pas sans dire, mais il y a encore un petit peu de chemin à parcourir pour In Flames pour nous sortir vraiment l'album qui cartonne. Là, pour l'instant, le disque, il est pas mal accueilli, mais quand même un peu avec tiédeur. Il faut dire, voilà, faut préciser qu'il y a quand même quelques faiblesses sur cet album, malgré quand même une poignée d'excellents titres. On va écouter un peu de heavy metal et de hard rock maintenant avec le groupe Last in Line, qui a sorti le 22 février un nouvel album, qui s'appelle Two. Donc vous aurez compris, c'est son deuxième album. Alors qui sont Last in Line ? Parce que là, ça demande quand même explication. Alors c'est un groupe qui a pris forme à Los Angeles en 2011 et qui a surtout pour particularité d'être en quelque sorte un groupe hommage au grand Ronnie James Dio, puisqu'il a été créé par trois membres originels du groupe Dio, c'est-à-dire le guitariste Vivian Campbell, qu'on connaît aussi en tant que guitariste de Def Leppard, le batteur Vinnie Appice et puis le bassiste Jimmy Bain, qui étaient tout simplement les complices de Ronnie James Dio sur les albums Holy Diver sorti en 83, Last in Line, d'où le nom du groupe, sorti en 84, et puis Sacred Heart sorti en 85, qui sont les trois disques qui ont vraiment défini le son de Dio et qui sont devenus de véritables pierres angulaires de l'histoire du rock. Alors dès leur première répétition, il a été évident pour notre trio que l'alchimie de l'époque était intacte, même après 27 ans. Donc eh ben, il restait plus qu'à trouver un chanteur, et c'est finalement Andrew Freeman, un ami de Vinnie Appice, qui va, avec sa puissance vocale, compléter le line-up de Last in Line. Et pour Vivian Campbell, l'arrivée de Andrew, elle va apporter un tel renouveau que pour lui, il était vraiment inconcevable de pas sortir du studio de répétition. Il va donc suggérer de booker quelques concerts dans les clubs du coin, donc du côté de Los Angeles. Ils vont, à ce moment-là, interpréter des morceaux du répertoire de Dio, juste pour s'amuser. Mais ça, ça va être que le début de l'histoire, hein, puisque les années suivantes, les quelques shows californiens vont entraîner quelques concerts en Angleterre, au Japon. Et puis là, il y a le label italien Frontiers Records qui va leur proposer d'enregistrer un album complet, mais pas de reprise de Dio, de morceaux inédits. Donc, au cours de l'année 2014, le groupe va écrire, enregistrer avec l'aide d'un ami de longue date, le réalisateur Jeff Pilson, qui a bossé avec Dokken, avec Foreigner, et puis ils vont donner naissance à Heavy Crown, un premier album qui sort en 2016, qui est un petit peu dans la même veine que le mythique Holy Diver, et qui va faire bien parler du groupe, qui va mettre vraiment bien en lumière Last in Line. Malheureusement pour Jimmy Bain, il va s'agir d'un album posthume puisqu'il va disparaître quelques jours avant la sortie du disque, et donc du coup c'est Phil Soussan qui le remplace au poste de bassiste. Et Phil Soussan, il faut savoir qu'il a un très beau CV. Par exemple, il a joué avec Ozzy Osbourne, avec Billy Idol, mais aussi avec Johnny Hallyday. Et oui, ça c'est la petite anecdote croustillante. Et puis donc alors on savait pas trop ce que ça allait devenir Last in Line, si ça allait rester un projet one shot ou pas, et donc non, puisque fin 2017 ils se sont réunis de nouveau à Los Angeles. Ils ont commencé l'enregistrement du deuxième album toujours sous la direction de Jeff Pilson, et donc ce résultat, c'est cet album qui s'appelle Two. C'est pas très original, c'est vrai, et bah, qui est tout simplement la suite logique du premier album. Alors le son du groupe maintenant, on le reconnaît, j'ai envie de dire presque immédiatement, notamment on reconnaît la frappe de Vinnie Appice qui, comme à son habitude, tambourine ses fûts avec rigueur et précision. On reconnaît aussi très bien la guitare rugissante de Vivian Campbell qui, lui, n'est pas avare en riff efficace et puis en solo bien senti. Alors, bon, quand même, c'est un album qui a malgré tout un peu moins surprenant que son prédécesseur. Par contre, il est plus solide, plus varié. On sent qu'il y a vraiment une cohésion qui s'est faite, hein, en quelques années. C'est un album que j'ai trouvé assez efficace, qui tient la route, qui va plaire, je pense, aux amateurs de hard rock et de heavy classique. Un bon album sans être un chef-d'œuvre, mais voilà, on peut pas avoir que des chefs-d'œuvre dans la vie. Voici un extrait de tout le nouvel album de Last in Line avec le titre Landslide, et c'est sur Bac FM.
Clear.
Last in line dans l'émission Check Me Load. Chaque vendredi, le métal fait son show sur Back FM. Vous venez d'écouter le titre Landslide, extrait du deuxième album du groupe qui s'appelle Took, qui est paru le 22 février, si je ne dis pas de bêtises. Avant de passer à la prochaine nouveauté, je voulais juste annoncer, vous êtes certainement pas passé à côté si vous suivez un peu l'actu, mais alors ça n'a rien à voir avec Last in line, quoique Last in line, c'est un groupe qui fait suite à Dio, là, ce dont je vais parler, c'est un groupe qui a également énormément marqué l'histoire du rock et du métal. C'est le film Motley Crue, le biopic sur le célèbre groupe de glam rock de californien qui va bientôt arriver sur vos écrans. Alors il passe pas par la case cinéma celui-là, puisque c'est une production Netflix, donc ça va arriver le 22 février et en grande pompe, hein, parce que ça fait déjà énormément de bruit. Donc tous les abonnés Netflix, vous pourrez le voir ce jour de sortie nationale, le vendredi 22 mars, un film qui va être accompagné d'une bande originale qui sort également en CD et qui est vraiment très très bien. On en écoutera un extrait, je pense, dans une des prochaines émissions. En tout cas, moi j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. J'ai regardé la bande-annonce et ça m'a vraiment donné très très envie de voir ce biopic qui s'intitule The Dirt, consacré donc à la carrière des excellents et trublions Motley Crue. Voilà. Ceci étant dit, on va écouter une dernière nouveauté pour aujourd'hui et puis ensuite on retrouvera l'interview des Tambours du Bronx et d'Apolline Manier. Mais tout de suite, on va quand même s'intéresser à un album dont je voulais vous parler lors de la dernière émission. Et puis voilà, on avait été pris par le temps. Cet album, c'est le nouvel opus de Overkill. Il s'appelle The Wings of War. Il est paru le 22 février. Alors Overkill, c'est un groupe qui a été formé en 1980 dans le New Jersey. Il a été créé notamment autour du chanteur Bobby Ellsworth, alias Blitz, et autour aussi du bassiste Didi Verney, qui sont tous les deux les seuls membres originaux qui sont encore présents. Avec Overkill, on est sur du trash metal, mais avec quand même une tendance assez heavy. Ils vont sortir leur premier album, Feel the Fire, en 85, un album qui va connaître un excellent accueil de la part de la presse. Les suivants, ce sera Taking Over en 87 et Under the Influence en 88, The Year of Decay en 89 et puis Horoscope en 91. Quatre albums qui vont connaître le même engouement, hein, de la part des médias, mais par rapport à des Metallica, Anthrax ou autres Megadeth, le succès commercial il sera largement en dessous de ce que mérite le groupe, mais ça va pas les empêcher de persister, hein, puisque ils vont enregistrer une très longue liste de disques qui vont passer assez largement inaperçus jusqu'à la sortie en 2010 de Iron Band, qui va arriver pour les 30 ans de carrière du combo. Et donc voilà, ça signe leur grand retour parmi les formations trash sur lesquelles il faut compter. Une fois remis sur les rails, Overkill va frapper encore plus fort avec The Electric Age en 2012, avec White Devil Armory en 2014, et puis avec The Grinding Wheel en 2017, qui vont devenir tout simplement les trois plus gros succès commerciaux du groupe, qui connaît depuis ces années 2010 une véritable apogée. Et ça, c'est assez incroyable pour le trash, puisque voilà, c'est révérent presque de la scène trash aujourd'hui. Ils connaissent une renaissance qui est assez fulgurante, assez incroyable. Alors avec The Wing of War, son 19e album, Overkill nous envoie cette fois-ci pleine face la combinaison ultime de la brutalité malsaine et de la mélodie addictive. À noter que l'arrivée récente du batteur Jason Bittner, qui a fait partie de Shadowfall, de Flotsam and Jetsam, apporte une nouvelle alchimie au groupe, et ça donne une sensation assez unique à ce nouvel album qui est frais, qui est rageur. Alors c'est vrai que, voilà, je le disais, Overkill, ils font partie maintenant des révérends, mais ils sont quand même loin d'avoir tout donné. Ils montrent aucun signe d'épuisement, bien au contraire. Moi, je dis que les jeunes loups du trash, ils ont qu'à bien se tenir, parce que les papas sont encore dans la place. En voici la preuve en musique avec le titre Last Man Standing. C'était Overkill, les vétérans du trash sur Bike FM dans l'émission Check Me Load. Un extrait du nouvel album The Wings of War paru le 22 février. Le titre que vous venez d'entendre, c'est Last Man Standing. Voilà pour cet excellent groupe qui a marqué les années 80, qu'on avait ensuite oublié et qui est revenu en force dans ces années 2010. C'est tant mieux. Un album à découvrir absolument. Et puis, chose promise, chose due, hein, on y vient à notre interview du jour. Alors, vous vous souvenez peut-être, si vous êtes de fidèles auditeurs de Bike FM, que le 2 février 2018, les Tambours du Bronx, qui étaient ce jour-là représentés par Dom, nous présentaient en quasi-exclusivité dans les studios de Bike FM, Weapons of Mass Percussion, leur tout nouveau projet métal. Alors ce jour-là, Dom, il était accompagné par trois autres acteurs de cette ambitieuse aventure. Il y avait le batteur Frankie Costanza, qu'on connaît, qui a été révélé aux côtés de Dagoba, qui est désormais au sein de Blazing War Machine. Il y avait Renaud de Lofofora aussi, qui était dans nos studios, et puis Stéphane Burier, de l'autre Blast, de Sincenum. Voilà, on va pas refaire tout son CV qui est absolument gigantesque. Donc bien sûr, dans Check Me Load, après cette première émission, et puis sur Bike FM plus généralement, on a suivi ce projet, Weapons of Mass Percussion, tout au long de l'année. Une année qui a été marquée par de nombreux shows, dont le premier a justement eu lieu le 2 février 2018 au Silex à Auxerre, qui a été marquée ensuite par l'arrivée d'un troisième chanteur, Renato Di Folco, qui lui aussi d'ailleurs est venu nous rendre visite au mois de septembre à Bike FM. Et puis il y a eu la sortie en octobre de l'album Womp, qui a été très largement salué par les médias. Et donc, pour couronner tout ça, le 15 février dernier, les Tambours étaient de retour au Silex, là où tout a commencé, j'ai envie de dire, pour rejouer le show, qui, j'imagine, n'a absolument plus rien à voir avec le filage de l'an dernier. Et il y avait une invitée qu'on retrouve souvent aux côtés des Tambours, c'est Apolline Magnier. Bonjour Apolline.
Bonjour.
Qui est avec nous aujourd'hui. Bon, elle est souvent Bac FM, hein. Vous la connaissez bien si vous êtes.
Ça va, je pense.
si vous êtes aussi auditeur. Donc, Apolline, tu en as profité de ce concert pour interviewer les Tambours.
Exactement.
Alors, tu as eu qui? Tu as eu Dom, Thierry?
J'ai eu Dom, Thierry, David Zio et puis il y avait Renaud aussi.
Donc bah, vous avez fait un peu le point, hein, sur ce projet, sur tout ce qui s'est passé. Et bah, ça va être aussi l'occasion aujourd'hui de revenir, toi, sur ton expérience avec les Tambours. Parce qu'il a dû se passer aussi pas mal de choses de ton côté. Et puis on n'avait pas eu le temps d'en parler encore, hein, sur l'antenne.
Oui, c'est vrai.
Donc ce que je te propose, c'est qu'on écoute l'interview que tu as réalisée donc, le 15 février dernier. Et puis après, on va te cuisiner un peu également.
Quand vous êtes passé comme ça, ce projet vraiment métal, comment ils ont réagi en fait les gens? Est-ce qu'ils vous ont suivi? Vous avez perdu du public? Vous en avez récupéré un nouveau?
Bah ça, on sait pas trop. Perdu du public, peut-être. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui préfèrent, comme toujours, même tu sais, quand on est passé des tambours complètement acoustiques avec quand on a rajouté de l'électro, pareil, il y a des gens qui disent ah, moi je préfère les bidons, machin. Mais on a séduit un autre public, peut-être un petit peu plus métal. Et puis les gens sont quand même assez fidèles parce que de toute façon, ce qui ressort, j'ai quand même l'impression que c'est quand même, il y a quand même voilà, que les bidons qui sont là, qui sont habillés avec du chant et des guitares, avec des vrais textes, mais ça ressort. Donc même les gens qui sont un peu déçus, on va dire, je pense que moi j'en ai vu qui sont revenus quand même de toute façon voir le truc quoi. Après il y a forcément des irréductibles, mais qui paraît rien.
Alors globalement, vous avez quand même une bonne retombée critique, hein, de l'album, des lives. Est-ce que vous vous attendez à ça ou qu'est-ce que ça vous fait comme
Ça nous fait plaisir. Je pense qu'on a fait une grosse prise de risque quand on a sorti ce disque. Tous, hein, on s'adressait à un autre public, que ce soit nous les Tambours ou tous nos invités. Et donc c'est agréable de voir que les gens apprécient l'effort. Et nous, on s'est fait plaisir à faire ça et si ça plaît, tant mieux.
Je crois qu'on était tellement à la tête dans le guidon, vu que, comme l'a dit Dom, quand l'histoire est partie sur la route, il y avait encore quand même pas mal de boulons à régler, puis on était quand même concentrés sur notre truc, parce que finalement, il y a eu très peu de répètes tous ensemble, c'est juste qu'on connaît tous un peu notre taf et qu'on a bossé notre truc chacun de notre côté, et bon, il y avait quand même des rouages à graisser, et quand tu te dis, ah bah là, ça commence à tourner, on se sent à l'aise dans les morceaux, et quand tu vois sur des festoches ou quoi, que ça commence à partir sévère en cacahuète, bon bah je crois que tout le monde est satisfait de voir ça quoi.
Justement, vous répétez très peu ensemble en fait, au final vous retrouvez surtout sur scène tous ensemble.
Tous ensemble, oui, pratiquement jamais, ouais.
Alors le set, vu que ça change souvent de chanteurs, c'est jamais les mêmes, voilà. Est-ce que le set il change en fonction des chanteurs qui sont là ou est-ce que les chanteurs s'adaptent?
Bah c'est mieux quand c'est moi, hein, forcément.
Non, le set il change pas. Hein. Le set change pas, mais en plus, intéressant, ça donne une autre couleur, des fois, au morceau. Donc pour des gens qui passent te voir plusieurs fois, t'as un changement de chanteur ou un combo différent, c'est le plus intéressant, c'est les combos différents, quoi. Et du coup, ça permet de peut-être moins lasser ou, tu sais, de proposer autre chose un petit peu, parce que les chants sont quand même différents.
Alors, au niveau des critiques, donc les lives aussi ont été très bien reçus. Vous avez pas mal de dates qui arrivent. Quelle est la suite pour les dates? Est-ce que vous visez un peu l'étranger ou pas?
Bonne question, ça.
C'est une excellente question. Oui, on vise l'étranger. Pour l'instant, il y en avait assez peu. Il faut qu'on coordonne en fait la sortie de l'album, parce que l'album est sorti physiquement uniquement en France et partout numériquement, sauf sur certains territoires qu'on a gardé, que le label a préféré garder justement dans l'attente d'une sortie physique sur ces territoires pour une tournée internationale. Donc ça reste à caler, pour l'instant c'est encore à l'état de discussion, mais ça va se faire, ouais. Sachant que les tambours, on a toujours tourné à l'étranger, hein, jusqu'à présent beaucoup. Donc là, on a beaucoup focalisé ces dernières années sur la France, mais on a envie de retourner à l'étranger. Il y a certains territoires qui nous manquent.
Il faut juste qu'on refasse nos passeports, en fait. C'est ça.
Alors, pour revenir au chanteur, comment est-ce que vous switchez entre vous? Est-ce que Renaud, tu viens souvent? Est-ce que les autres sont plus souvent là que...
Bah, c'est un peu... dès le départ, moi, je savais que j'allais pas pouvoir... Je pouvais pas dire non à ce projet-là, parce que je l'aurais regretté toute ma vie, ça aurait été nul. Et puis, alors que j'ai déjà du mal à m'aimer, alors du coup, ça aurait compliqué la tâche. Et du coup, vite, j'ai proposé l'idée, voilà, qu'on soit à plusieurs, qu'on puisse se relayer. Après, comme Steph Burier est rentré dans l'histoire, les gars m'ont dit, ah ouais, mais quand vous êtes là les deux, bah venez les deux, parce que ça envoie bien deux chanteurs, donc on se débrouille. Après, il y a Renato qui est dans Flade, également dans Trépalium, qui est venu prêter la main, parce que on avait au départ, cette histoire était prévue pour partir plus tôt l'année dernière, sur le printemps été, puis finalement ça a mis du temps à ce que le disque se fasse, à ce que le disque sorte, et puis à ce que les gens connaissent le projet et aient envie de le voir aussi. Donc tout ça a mis un peu plus de temps que prévu, mais finalement on arrive à s'organiser, et je pense, au même titre que ça peut être pour le groupe, ça peut être intéressant d'avoir des chanteurs différents, parce que apporter une différente interprétation, une différente énergie par moment sur un titre, ça peut être cool. Pour moi, des fois c'est le challenge, c'est de le faire tout seul des fois, mais de se retrouver un coup avec Bubu ou avec Renato, c'est comme si t'avais un partenaire différent pour non, pas sexuel, espèce de dégueulasse. Je vois bien comment il me regarde.
Et ça vous arrive d'être tous les trois sur le même concert ou pas?
Pas pour le moment. Si, il y a eu la première, le jour où on leur a présenté Renato. Voilà, où il a été bizuté. Parce qu'il n'avait pas de pantalon noir.
Alors, pour parler un peu de Renato, justement, c'est quand même celui qui est le plus présent sur les dates. Et il est quand même moins présent sur l'album. Est-ce que il y a un projet avec lui qui va sortir, un clip, je sais pas, pour le mettre un peu plus en lumière ou pas?
Oui, tu fais bien d'en parler. On a écrit un morceau pour lui, en fait, pour l'intégrer, l'officialiser, on va dire, un peu plus, pour officialiser notre union, voilà.
Un genre de
pax. Ouais. Voilà. Ouais, on a envie de l'intégrer un petit peu plus au projet, parce qu'il est, il est pas plus présent que les autres. Il était très présent en fin d'année, mais on jongle en fait tout le temps. Sur la fin d'année, oui.
Il n'est pas là.
Sur la fin d'année, on a eu Stéphane qui était un peu fatigué en fin d'année, et Renato l'a remplacé. Mais sinon, on jongle vraiment toute l'année. On aura soit Renato avec Renaud, Renato avec Stéphane. On aura aussi du Stéphane avec Renaud. Enfin, on va vraiment jongler entre les trois et essayer que chacun ait sa place, quoi.
Et vous gardez la surprise à chaque fois?
Plus ou moins.
Ils savent pas même, hein. Ouais. On leur dit pas, hein. Ils voient bien qui vient. C'est ça.
Le prochain chanteur, c'est
ça. Sort de la gare.
Comment ça? Ouais,
qui
descend du train, c'est ça.
Et donc là, quelle est la suite après cette date au Silex? Beaucoup de dates.
Oh, bah alors tu fais bien d'en parler.
Moi, je sais qu'on va jouer à Lille. Non, il y a pas une date à Lille.
Je suis pas au courant.
Ah bon, voilà. Bah, moi, j'irai tout seul alors. Ouais. Bon, d'accord. Non, j'étais sûr qu'il y avait.
C'est bon à savoir. Ah,
c'était en discussion, Lille, mais est-ce que c'est. Ah ouais?
Il n'y a pas l'aéronef.
L'aéronef, c'était en discussion, mais je ne sais pas si c'était validé. Donc, oui, de toute façon.
Non, là, il y a un petit creux là, dans le mois de mars, effectivement, ce qui va nous permettre aussi de travailler un petit peu d'autres morceaux, enfin, de retravailler l'autre spectacle.
Ah oui,
Coros qui va tourner aussi et qui tourne en parallèle. Donc ça va nous permettre de le remettre un petit peu à neuf avec Francky qui l'a intégré. Et puis je pense que les dates
sinon début avril.
Ouais, Rennes et Quimper.
Voilà,
ouais.
Les 5 et 6 avril.
Ouais. Voilà. Ça commence en avril, mais
ces dates,
sur le site des Tambours, ouais. Sur la page Facebook. sur le site des Tambours, tout y est, tout est mis à jour.
Eh ben, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin, pour Bac FM, pour le Silex?
Achetez nos disques, plein. Et ceux de Lofofora aussi.
Et Madame Robert.
Allez voir du concert, faites bien le bazar. Voilà. Faisez le bazar.
Dépêche-toi parce que tu vas vendre du t-shirt. Là.
Ok, j'arrive. Ben, merci beaucoup.
Delirium, demain, un extrait de l'album Womp, Weapons of Mass Percussion, pour illustrer donc cette interview des Tambours du Bronx réalisée par Apolline, que j'ai enfermée dans le studio, donc qui est restée avec nous. Bon, ça va Apolline?
Bah, ça va très bien.
Alors, du coup, on va parler un petit peu de ton expérience avec les Tambours. Donc, bon, on sait que t'es animatrice chez Bac FM, mais tu es également, et ça c'est ton autre casquette, chanteuse et bassiste du groupe Plastic Age. Hein, voilà, c'est partie vraiment de
mon identité.
De ton identité, voilà. Et donc, en plus de tout ça, tu fais partie des guests de ce projet des Tambours du Bronx. Alors, explique-nous un peu comment tu as rejoint cette aventure.
Alors, à la base, en fait, on avait enregistré notre EP, notre album au studio des Tambours du Bronx avec Plastic Age, mon groupe, du coup.
Ouais.
Et en fait, Dom, il a adoré ma voix et puis il m'a demandé, suite à ça, de faire quelques essais sur des morceaux, voilà, un peu divers et variés, très axés métal. Et puis un jour, il m'a dit, tiens, bah, tu connais Prodigy, tu veux faire The Day Is My Enemy. Donc, j'ai écouté, je suis là, carrément. Donc, on a fait des essais voix et tout. Et puis, ça avait rien donné de vraiment concret en fait pendant une petite période, quelques mois, et puis il s'est trouvé qu'il passait au Silex, et puis en fait c'était totalement par hasard, c'est parti d'une blague en fait à la base de Thierry qui avait dit à Christine qui travaillait à Bac FM, tu dis à Pauline de s'échauffer pour le Silex, et puis moi j'étais fait quoi, comment ça, de quoi. Puis en fait c'était une blague et il s'est avéré que ça s'est concrétisé, puis que j'ai rejoint le projet, voilà.
Comme quoi, hein, des fois une blague ça peut amener à des
c'est
choses.
C'est ça, ne pas hésiter.
Et du coup, on t'a proposé de reprendre The Day Is My Enemy, donc de Prodigy, ça te parlait Prodigy ou c'est pas un groupe spécialement que t'as écouté?
Alors j'écoutais pas forcément, je connaissais deux noms et puis les grands titres quoi, mais c'est pas, j'écoutais pas ça forcément.
Donc le titre tu l'as découvert vraiment?
Je l'ai découvert
à ce moment-là.
Avec Dom, ouais.
Et est-ce que pour la travailler cette chanson, tu t'as appréhendé les choses bah comme tu le fais quand tu bosses pour tes chansons sur Plastic Edge, ou est-ce que là du coup t'as travaillé différemment, parce que on sent que là voilà ça pousse quand même assez loin.
Alors en fait, Dom, il m'avait déjà entraîné à l'exercice.
D'accord.
Parce qu'il m'avait fait faire des reprises de Sepultura.
Ah bah oui, forcément.
Donc ça m'avait déjà bien calmé. Puis en fait, non, quand il m'a envoyé ce titre-là, je me suis dit, ah cool, c'est une voix féminine, ça va être plus facile à aborder. Donc bah après, j'ai la mélodie en soi, elle est assez facile. Hein. Enfin, c'est plus crier qu'autre chose au final. Donc non, ça va, c'était pas compliqué. En fait, j'ai juste posé ma voix sur ce qu'ils avaient fait. Puis.
Et c'est vrai que par rapport à la version originale. T'as une voix finalement qui est plus grave que sur
oui,
la version
vrai.
Prodigy où la chanteuse a une voix très très aiguë en fait.
Ouais.
Alors durant les shows sur lesquelles t'as été invité à chanter The Day Is My Enemy, t'as partagé la scène soit avec Renaud, soit avec Stéphane, soit avec Renato. Hein, c'est pas tout le temps le même. Tu soulevais ce point-là dans l'interview. Mais sur l'album, c'est lequel qui chante avec toi?
Alors en fait, on me l'a jamais vraiment dit, mais je suppose que c'est Stéphane. Alors j'espère que je ne fais pas d'erreur. Mais Renaud, moi j'ai jamais chanté avec lui. En fait, c'était toujours Stéphane.
D'accord.
Et quand Stéphane n'est pas là, c'est Renato. Donc il me semble que c'est Stéphane. Hein, si je me trompe pas, on me dira.
À Varenne Vauzelle, c'était avec Renato que tu as chanté.
C'était avec Renato. Ouais, c'était là. Non, c'était avec Stéphane.
Avec Stéphane.
Oh, c'était avec Stéphane.
Ah oui.
Oui, oui.
Ça y est, je me souviens. Alors, il y a peu de temps, j'ai découvert justement le clip de cette chanson sur YouTube. C'est un clip qui a été tourné récemment, ça?
Ah non, alors il a été tourné en juillet 2017. Il y avait encore l'ancien line-up, même le chanteur n'est plus là maintenant. Donc,
D'accord, et finalement ce clip-là, il avait jamais été diffusé ou
alors, en fait,
j'avais manqué quelque chose?
Non, il n'a jamais été diffusé, c'est que c'était un peu une période assez bâtarde en fait pour les Bronzes, parce qu'ils n'avaient pas encore vraiment officialisé le projet, ils voulaient se lancer dans un nouveau truc, et puis du coup c'était un peu... Là, c'était un peu en suspens, donc du coup, voilà, il est jamais sorti, puis ils en ont profité. Là, vu que c'est pas le même line-up, que s'il y a pas Stéphane, voilà, je ne parle pas en leur nom, mais je suppose que, voilà, ils pouvaient pas sortir le clip officiellement, là, vu que c'est plus du tout d'actualité, et donc voilà, ils l'ont mis dans les interviews. Ouais.
D'accord, donc on peut retrouver sur YouTube, hein, tout simplement.
Voilà.
Ça a été publié le 29 janvier, si je dis pas de bêtises,
oui.
Pour que nos auditeurs puissent retrouver la vidéo. Alors, donc, t'as participé à plusieurs shows, tu sais combien?
J'en ai fait 5, je crois, il me
D'accord.
semble, 5, 4 ou 5, ouais.
Ouais, donc ça t'a permis de voir évoluer un peu tout ça, je pense,
oui.
Au fil du temps. Alors, qu'est-ce qui a changé du Silex au 2 février 2018 jusqu'au Silex au 15 février 2019? Qu'est-ce qui est le plus flagrant?
Bah là, le show, il est vraiment rodé. Disons que la première fois, c'était le filage. En plus, c'était même pas le vrai set.
Ouais.
Donc du coup, c'était un peu... Enfin, c'était pas hésitant non plus, hein, parce qu'on parle des tambours du Bronx. Mais maintenant, je trouve que c'est vraiment plus rodé. C'est vraiment le spectacle, ouais. Et ça se voit que c'est qu'ils ont tourné, quoi. Ça se voit qu'il y a quand même de la bouteille derrière. Donc après, sinon, les morceaux sont toujours les mêmes. Mais ouais, c'est plus rodé, on va dire.
D'accord, donc ça vaut le coup pour ceux qui ont vu il y a un an de retourner voir maintenant.
Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est vraiment là, c'est vraiment le spectacle, quoi. C'est pas
ouais.
juste des morceaux la suite des autres. C'est vraiment.
Bah déjà à Varenne Vauzelle, je pense qu'il y avait déjà
ouais.
y avait pas mal de dates de fêtes. Moi, c'est la première fois où j'ai vu le show et vraiment on sentait que déjà ouais, il y avait une grosse maîtrise et c'était vraiment tout était bien calé, tout était.
Ouais, c'est bien coordonné.
Ouais. Enfin, moi j'avais beaucoup aimé, je crois que le public avait été assez réceptif hein, d'ailleurs sur,
en
sur
général,
cette date.
Enfin, sur les dates que j'ai fait, le public à chaque fois j'étais bien content.
Bon, après il hein. y avait aussi les grincheux qui disaient ouais, mais moi j'aimais mieux avant,
ah, ouais,
mais
bah.
Bon voilà, on peut jamais contenter tout le monde
non,
de toute
ça, c'est
façon.
Sûr.
Et cette expérience, qu'est-ce que toi ça t'a apporté jusqu'à présent et qu'est-ce que ça continue de t'apporter en tant que musicienne ou même en tant que personne?
Alors au début, ça m'apportait beaucoup de trac.
Ouais.
Puis en fait, non, ça m'apportait beaucoup d'assurance en fait, parce que, enfin, je vois l'évolution moi-même. Au début, j'étais vraiment toute timide sur scène, je savais pas trop où me mettre. Et puis en fait, maintenant, je m'éclate vraiment, vraiment à fond. Ça m'a donné vraiment de l'assurance et puis aussi un peu de visibilité quand même par rapport à Plastic Edge, parce que bah mon nom il ressort quand même dans pas mal de chroniques. Les gens, voilà, ils voient une nana qui arrive sur scène, ils disent ah, c'est qui, donc ils vont se renseigner. Du coup, ça nous donne de la visibilité avec Plastic Edge et c'est vrai que c'est un très très bon tremplin.
Et puis c'est vrai que bah par exemple, si on télécharge l'album sur iTunes, on voit qu'il y a un featuring avec Apolline Manier.
Ouais, voilà, donc, c'est ça. Donc voilà, c'est la classe aussi.
On a envie de se renseigner sur qui tu es et donc aller voir un petit peu ce qui se passe aussi du côté de chez Plastic Edge. Et on pourra te revoir bientôt sur scène avec les tambours ou pour l'instant il y a rien de calé?
Alors, normalement, on garde la surprise.
Alors, ne dis rien.
Donc, voilà, je serai là sur certaines dates, mais
d'accord. Et ben, pour savoir, il y a qu'à aller sur Facebook, hein, tout simplement.
Exactement.
Puisque, voilà, tout est bien à jour, tout est bien publié. Donc, il y a peu de chances de louper une date. Alors, l'émission, elle est spécialisée métal, mais métal et rock, on va dire, c'est un peu la même famille. Hein, donc, d'abord, il y aurait pas de rock, il y aurait pas de métal. Comme ça, c'est simple. Donc, je voudrais aussi qu'on dise quand même quelques mots sur Plastic Edge, puisque vous aussi, hein, vous avez eu une année bien remplie avec la sortie de l'album Blood Red Roses, pas que je l'écorche, qui a aussi d'ailleurs reçu de très bonnes critiques, hein, je crois.
Ouais, on a pas mal de chroniques, d'articles, c'est cool.
Qui sont mérités d'ailleurs.
Merci.
Je crois que vous avez déjà félicité quand on avait fait l'interview justement à l'occasion de l'album. Alors il y a eu pas mal de concerts aussi. C'est quoi votre actu en ce moment? Est-ce qu'il y a d'autres dates de planifier?
Alors là, on a pas mal de dates qui arrivent. Alors en ce moment, c'est un peu la période creuse où on travaille, on fait des répètes, on fait des résidences, tout ça. On travaille des nouveaux morceaux aussi. Et puis ça, on va repartir sur les routes de France à partir de mars, fin mars, début avril, quoi.
D'accord.
Puis jusqu'en août, je crois, pour le moment, on a des dates. Après, bon, ça vient au fur et à mesure.
Là, quoi. Déjà, c'est pas mal. Hein.
C'est déjà bien. C'est déjà bien, bien chargé, quand même.
Mais pour vous, pareil. Hein, il suffit de vous suivre sur les réseaux sociaux.
Voilà.
Là aussi, hein, c'est tenu.
Ah oui, on met tout à jour.
Voilà. Eh ben, merci à Pauline de nous avoir accordé un petit peu de ton temps, parce que là, en plus, tu viens sur ton temps de travail. Donc,
ah oui, bah, ça me dérange pas, merci à toi.
Et puis, bien sûr, on va écouter la reprise de The Day Is My Enemy, hein, que tu chantes sur l'album des Tambours du Bronx. Et ça tombe bien, puisque l'émission se termine une fois sur deux par une rubrique qui s'appelle Sortez Cover et qui est consacrée aux reprises. Donc, le but, c'est qu'on prend un morceau de n'importe quel répertoire, de n'importe quelle époque, le seul truc c'est qu'il faut qu'il soit repris version métal.
Alors, tombe bien.
Ça tombait bien, donc j'avais prévu déjà depuis un bon moment qu'on allait diffuser ce morceau pour terminer l'interview, mais j'étais assez loin de m'imaginer que l'actualité allait nous rattraper cette semaine, puisque on a appris lundi la disparition de Case Flint, qui était le chanteur du groupe Prodigy. Donc tout naturellement, hein, la diffusion de ce morceau, ça va être également un hommage à cette figure emblématique de la scène électro-anglaise. Alors Prodigy, ça va rester dans l'histoire de la musique, la formation qui a quand même réconcilié les rockers, les punks et les métalleux avec la techno dans les années 90, ce qui n'était pas gagné du tout à l'époque, parce qu'il y avait cette espèce de clivage entre moi j'écoute du rock, moi j'écoute de la techno, on se supportait pas clairement. Et ça s'est fait notamment avec un album qui est mythique, qui s'appelle The Fat of the Land, qui est paru en 97, donc tu t'en souviens pas, hein, obligatoirement.
Bah non, j'étais pas née, enfin presque.
Mais bon, je pense que t'en as entendu parler de cet album, parce que on retrouve dessus des morceaux qui sont très très célèbres, comme Brace, Firestarter, Smack My Bitch Up aussi, qui avait un clip extrêmement sulfureux, un clip qui avait fait grincer les dentiers de tous les censeurs de l'époque, parce que c'était assez violent. En France, par exemple, il avait été diffusé sur Canal+ à une heure de grande écoute, et puis ça avait fait un scandale monumental. Et il fallait attendre la nuit, hein, pour pouvoir le visionner sur M6. En général, il passait vers 1h du matin. Mais bon, heureusement, la carrière de Prodigy, elle est loin de se résumer à cet album, puisque ce groupe qui est né dans le Sussex sous l'impulsion du DJ Liam Ouellet et donc mené par Case Flynn, il a sorti jusqu'à aujourd'hui 7 albums. Le dernier, il est tout récent, puisqu'il est paru en novembre dernier, c'est The Tourist. Et d'ailleurs, il y a une tournée qui devait commencer prochainement qui a été annulée, bien évidemment. En ce qui concerne plus précisément le titre The Day Is My Enemy, qu'on va écouter dans quelques instants, c'est un titre qui est assez récent aussi, puisqu'il date de 2015. C'est un extrait du disque du même nom, qui était paru en single le 26 janvier 2015, quelques semaines avant l'album qui lui était arrivé le 30 mars. Et dans la version originale, eh ben, c'est pas Apolline qui assure le chant féminin.
Et non.
C'est Martina Topley-Bird, qui est une talentueuse chanteuse britannique, qui a réalisé plusieurs albums solo. Alors, dans ce titre, on entend également une formation suisse qui s'appelle le Top Secret Drum Corps. Alors, c'est des percussions, c'est 25 joueurs de tambour qu'on entend sur la version originale. Et puis, on peut noter aussi qu'une partie des paroles, elles sont extraites d'une chanson d'un Américain qui s'appelle Cole Porter. Et c'est une chanson, en fait, qui date de 1934, qui est pas très connue chez nous, mais qui est visiblement très connue Outre-Atlantique. Et puis enfin, concernant son impact médiatique, The Day Is My Enemy, elle a été utilisée à plusieurs reprises dans des jeux vidéo, à la télé. Par exemple, on l'entend dans le jeu vidéo Watch Dogs 2, dans Call of Duty Infinite Warfare. Et puis elle a servi aussi de musique pour un des trailers d'une série TV qui s'appelle Jessica Jones. Voilà, pour vous donner quelques exemples. Je crois que maintenant, vous êtes quand même incollable sur cette chanson, The Day Is My Enemy. Donc, il est temps de la découvrir ou de la redécouvrir, revue et corrigée par les Tambours du Bronx en featuring avec Apolline Magnier. C'est un extrait de l'album Weapons of Mass Percussion qui est toujours disponible. Merci Apolline.
Mais merci à toi.
Et puis bah, on te retrouve mercredi à 18h pour Come on Everybody.
Exactement.
Voilà, le thème ce sera la surprise. Hein. Moi je suis déjà au courant, mais je dis rien. Et quant à nous, amis auditeurs, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. Salut à tous, à très bientôt, tout de suite les Tambours du Bronx.